Chers sœurs et frères, salutations fraternelles à vous tous. Un vrai plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui, deux semaines après la fête des tabernacles. Est-ce que, si vous m'écoutez, signalez avec le numéro 1, s'il vous plaît, pour que nous sachions qu'on peut commencer à transmettre notre émission du sermon. Le numéro 1, si vous le voulez l'indiquer. Bon, ça y est, donc on peut continuer, chers sœurs et frères, vous tous, partout vous êtes, un peu éparpillés en Suisse, en France, soyez les bienvenus, et encore une fois, salutations fraternelles, un joyeux sabbat pour vous tous, plein de paix, et que l'effet de cette fête qui vient de s'achever nous donne de l'élan pour continuer dans la présence de notre Dieu, maintenant que le monde s'approche rapidement, on voit vers sa fin, la fin d'une ère s'approche, chers sœurs et frères, on peut le sentir. On peut pas dire des dates parce qu'on ne les connaît pas, il n'y a que notre Père au ciel qui les connaît, mais nous, on peut déjà sentir comment s'approche la fin de cette époque que le royaume des dieux va bientôt être établi sur terre. Et je sais que la fête des tabernacles vous a aidé pour avoir cette vision claire et que pour raviver la vision du royaume qui s'approche pour que nous vivions d'après tous les commandements, les statuts et les jugements que l'Éternel nous ordonne. Bon, chers sœurs et frères, Dieu nous ordonne dans sa parole, à nous qui avons ce devoir de vous transmettre la parole de Dieu, de vous donner de la nourriture dans la saison. Si vous voulez vous reporter au chapitre 24, s'il vous plaît, de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et verset 45. Chapitre 24, verset 45 de l'évangile de Matthieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Excusez-moi. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire dans la saison. La saison dans laquelle on se trouve. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Dans quel temps nous trouvons-nous maintenant après la fête des tabernacles? Chers sœurs et frères, peut-être vous connaissez le sujet dont je veux vous parler, mais c'est très important de savoir les parallèles étonnants entre l'établissement des fêtes de Dieu d'après les récoltes physiques et d'après l'activité physique du peuple d'Israël et les parallèles extraordinaires que nous découvrons pour notre vie spirituelle à cette époque. Même si nous sommes éloignés, la plupart d'entre nous, de la campagne et de la vie agricole, les parallèles que l'Éternel nous enseigne sont très utiles. L'Éternel, notre Dieu, notre Maître Jésus-Christ, il a expliqué les royaumes des dieux souvent, très souvent, dans des termes agricoles, le temps de semaille. Où nous trouvons-nous maintenant après la fête des tabernacles, si nous allons suivre le rythme de la vie physique qui va nous donner des renseignements très utiles pour savoir comment les appliquer à notre vie spirituelle? Où nous trouvons-nous maintenant? Peut-être il est arrivé dans les sites où vous avez gardé la fête des tabernacles et que les derniers grands jours, souvent, ou les tout derniers jours de la fête des tabernacles, il y a la pluie. la pluie que l'Éternel envoie sur la terre. Comment s'appelle cette pluie et pourquoi est-ce qu'elle vient? La pluie, si vous voulez vous reporter au chapitre 11 du livre du Deutéronome, pour que nous allions là pour apprendre des leçons importantes sur notre conduite après la fête. La fête des tabernacles a été un banquet spirituel. On nous a tout servi. C'est une fête d'une récolte, la récolte des fruits de l'été, et aussi, n'est-ce pas, toutes les bénédictions des autres récoltes que nous allons étudier maintenant. On les jouit surtout à la fête des tabernacles, où Dieu nous donne cette abondance de sa parole. On était assis, on est servi la parole des dieux, qui est notre nourriture, en grande abondance pendant la fête des tabernacles. Le problème qui arrive souvent chez les membres de l'Église, entre nous, frères et sœurs, c'est que quand la fête finit, on rentre chez soi, on s'assoit, et puis on ne fait pas grand-chose. On néglige la tâche qui doit tout de suite commencer après la fête. Quelle est cette tâche? Cette tâche est de labourer la terre, de préparer les sillons et de semer cette abondance de semences qui nous a été donnée pendant la fête des tabernacles. Cette récolte, on garde toujours de la semence pour la saison suivante, pour la récolte de l'année qui s'ensuit. Par exemple, si nous lisons le livre du Deutéronome au chapitre 11, l'Éternel nous dit qu'est-ce qui arrive exactement après la fête des tabernacles, qu'est-ce que pouvons-nous apprendre de cet aspect physique et comment pouvons-nous l'appliquer à notre vie spirituelle pour ne pas négliger à cette époque où nous nous trouvons, où on est complètement aliéné par les distractions continuelles, pour que nous ne perdions pas notre concentration dans cette vision du royaume des dieux qui a été ravivé pour nous pendant la fête et que nous gardions cette lumière toujours allumée et bien nourrie. Donc au chapitre 11 du livre du Deutéronome, reportez-vous s'il vous plaît au verset 13 et nous allons voir où nous trouvons-nous maintenant, même du point de vue physique dans l'hémisphère nord et aussi du point de vue spirituel après la fête des tabernacles. Chapitre 11 et verset 13 du livre du Deutéronome. Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, vous avez qu'aimé, c'est obéir. Qu'est-ce que l'amour? Que nous gardions ses commandements d'après la première épître des Jean, chapitre 5, verset 3. C'est que le monde qui s'appelle chrétien ne comprend pas. L'obéissance est l'expression de l'amour dans notre conduite quotidienne. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, nous allons voir ça, très important, Dieu n'aime pas la médiocrité, il n'aime pas la tiédeur. Si nous sommes tiés et nous n'avons pas cette passion pour le royaume des dieux, et un amour pour notre Dieu comme David l'avait, comme Daniel l'avait, il va nous vomir de sa bouche, ce qui arrive à notre époque, où les distractions et les péchés abondent comme jamais auparavant à cause des médias, n'est-ce pas? On est envahi dans nos maisons et on est envahi dans notre esprit. Donc il faut faire attention, chers sœurs et frères. Et puis il dit, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Voilà, la pluie de la première et de l'arrière saison. Quelle est la pluie de la première saison et celle qui venait juste après la fête des tabernacles? Et la première pluie tombait d'habitude le dernier grand jour où Dieu nous annonce qu'il est en train d'envoyer la pluie pour amollir la terre, pour que nous allions travailler. Nous sommes faits de la poussière de la terre. Vous le lisez, vous le connaissez bien. Nous allons voir des parallèles qui vont nous servir là pour notre vie spirituelle. Et puis, comme l'Éternel a déclaré à Adam, après son péché, il dit que, au verset, au chapitre 3 de la Genèse, et verset 19. Genèse, chapitre 3, et verset 19. Il dit, c'est à la sueur, Genèse, chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, nous sommes donc, notre corps physique est de la poussière. Mais Dieu met la semence de sa parole spirituelle dans ses temples physiques pour qu'elle produise du fruit. Et ça prend du travail. Nous ne pouvons pas produire la semence. Nous avons un corps qui nous a été donné. Donc la poussière nous est pourvue pour nous. La semence. Et puis la pluie qui amollit la terre. Après la fête des tabernacles, faut pas oublier ça, parce que d'habitude, il y a pas mal de frères et de sœurs dans l'église qui sont tellement remplis, satisfaits, joyeux après la fête, qu'ils ont la tendance à négliger le travail spirituel qui nous attend tout de suite après la fête. Après la fête, c'est le temps de semailles. C'est le temps de s'occuper à labourer la terre, à planter la semence qui nous a été donnée en grande abondance par la bénédiction des dieux, à la planter dans notre temple spirituel, dans notre esprit, notre pensée, dans notre cœur, dans notre âme. Donc nous avons un commandement des dieux d'aller travailler, d'aller semer, c'est le temps de semailles. Juste après la fête, c'est pas le temps d'aller se reposer et de devenir paresseux et de ne pas travailler dans notre travail spirituel que l'Éternel nous donne pour que nous puissions avoir un fruit de croissance pour présenter devant Dieu à la prochaine fête. Donc, répétons ça de nouveau. Nous allons voir donc les parallèles, de nouveau le chapitre 11 du livre du Deutéronome, pour que nous ayons de la diligence, pour que nous travaillions avec enthousiasme. Après la fête, nous avons été bien nourris, et donc Dieu, il envoie cette pluie qui amollit la terre, et il veut que nous le prenions spirituellement. Et puis, je répète, au chapitre 11, verset 13 du Deutéronome, « Si vous obéissez à mes commandements, je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. » La pluie de la première saison commençait vers la mi-octobre, c'est-à-dire vers la fin de la fête des tabernacles. Dieu envoyait cette pluie pour amollir la terre et pour que la semence puisse naître, n'est-ce pas? Il faut que la semence meure et que une nouvelle plante vienne. Et s'il n'y a pas l'eau de la pluie qui vient tout de suite après la fête, elle va pas donc germer. Il faut que la semence puisse germer. Pour ça, il faut la pluie. Donc Dieu nous exhorte à que nous utilisions notre temps avec de la sagesse, en utilisant bien notre temps, et que juste après la fête, nous prenions toutes ces paroles, cette semence qui nous a été donnée, et que nous nous mettions à la tâche de labourer dans cette poussière qui est notre temple physique, et de labourer pour que la semence puisse pénétrer profondément en notre cœur, en notre âme, en notre pensée et de toutes nos forces. Nous allons continuer ici, il dit, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton blé. » Nous allons voir maintenant, c'est le temps où on plante les orges et le blé. Ce sont les premières récoltes qui vont venir au printemps. Mais si on ne plante pas, il n'y a pas de récolte. Donc il faut planter cette parole en nous. Nous allons voir, par exemple, ne quittez pas Deutéronome 11, nous allons y revenir. Mais pour que cette perspective soit claire chez vous, nous allons tout prouver par la parole des dieux. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 8 de l'évangile de Luc. Chapitre 8 de l'évangile de Luc. Et nous allons voir comment la Bible nous enseigne. Nous avons déjà vu que nous sommes de la poussière. Nous avons un corps physique qui devient le temple où demeure la présence de Jésus-Christ et du Père par l'Esprit Saint. Donc c'est la semence que l'Éternel plante en nous. C'est sa semence spirituelle de la vie éternelle, mais il nous donne aussi la semence de sa parole. Au chapitre 8 de Luc, verset 11, nous allons donc voir quelle est la définition de la semence. Voici ce que signifie, il est en train d'expliquer au chapitre de Luc, la parole, la parabole du semeur. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, comme on l'a expliqué au début, pendant la fête des tabernacles, nous avons eu un banquet, on a été bien servi, il ne fallait pas faire trop d'efforts. Le danger, c'est qu'après la fête, on continue dans cet état d'esprit. Quand ce que Dieu nous commande d'après sa parole et la sagesse qu'il nous révèle par des aspects physiques, quand on apprend qu'il y a une application spirituelle, quand on revient de la fête, c'est le temps de semailler, c'est le temps d'élaborer la terre, c'est le temps de se lever tôt. Moi, j'ai vécu dans la campagne, dans les Andes, en Colombie. Il m'a fallu labourer la terre et avec des bœufs, n'est-ce pas? Donc, en France, on le fait avec des chevaux. Mais il fallait donc se mettre à la tâche. Et puis, il y avait la pluie qui ramollit la terre. Et puis, pour que la semence puisse germer. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant après la fête? Dieu nous envoie spirituellement la pluie de l'arrière-saison. Elle est en train de vous la donner maintenant par l'intermédiaire de ce discours ou de ce sermon que vous écoutez. C'est pour nous ramollir, c'est pour nous encourager à aller travailler, à être diligents, à nous lever de bonne heure et à commencer à faire des sillons dans notre cœur, dans notre temple spirituel, pour que cette semence qu'on a reçue en abondance pendant la fête des tabernacles ne se perde pas dans l'oubli et qu'elle puisse être plantée en nous et qu'elle puisse produire le fruit. Donc la semence, c'est la parole des dieux. La pluie ramollit la terre. Et la première pluie venait à partir de la mi-octobre jusqu'au mois de janvier à peu près. C'est le temps de semailler. C'est le temps où on laboure. C'est le temps où on plante les semences. C'est le temps où Dieu envoie cette pluie pour que la semence germe et qu'elle commence donc à grandir pour qu'elle soit prête pour la prochaine saison des récoltes qui sera l'époque de la Pâque. Donc, que devons-nous faire? Encore une fois, je vous répète, ce sujet de la pluie est très important et Dieu le répète tout au long de sa parole. Nous allons le voir aussi dans le livre du Lévitique au chapitre 26, si vous voulez reporter là-bas. Lévitique chapitre 26 et verset 3. Vous voyez la même exhortation que nous avons lue dans le livre du Deutéronome. Chapitre Lévitique 26 verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Mais il faut planter pour qu'elle puisse produire, vous le savez bien. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. La première pluie venait, comme je l'ai déjà répété, à partir de la mi-octobre jusqu'au mois de janvier. Et puis, la pluie qui vient après, c'est celle qui arrive au mois de mars, avril, pour faire mûrir les grains et puisqu'on puisse récolter le grain déjà prêt pour la consommation. Et puis aussi, après, il y a la troisième récolte qui est les fruits de l'été, qui sont les fruits que la Bible nous mentionne. Nous allons les voir aussi pour que vous ayez la perspective complète. Il y a trois récoltes dans la Terre Sainte. Et puis, elles représentent les trois récoltes du plan magistral des dieux, où il est en train de sauver l'humanité en trois étapes, de leur donner la vie éternelle. Pour avoir une vision d'ensemble, je vous invite, chers sœurs et frères, que vous reportiez au chapitre 15, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22. Et comme tous meurent en Adam, je répète, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est-à-dire que Dieu a un plan de salut pour donner la vie éternelle à tout être humain qu'il a créé. Dieu ne veut que personne se perde. S'il y a quelques-uns qui vont se perdre, qui sont jetés dans les temps de feu, c'est de leur faute. Dieu leur a donné tout ce qu'il faut pour avoir le salut. Maintenant, il nous donne cette instruction que je vous donne aujourd'hui pour ne pas négliger notre tâche spirituelle, pour que nous nous levions de bonne heure, pour aller labourer la terre. Nous allons voir que la prière est celle qui ouvre les sillons du cœur. La prière ouvre les sillons de l'âme. La prière ouvre les sillons de la pensée. Et si nous ne levons pas de bonne heure pour être dans la présence de notre Dieu et pour méditer dans sa parole et pour ouvrir des sillons profonds pour que toute cette semence qu'on a reçue puisse germer et avoir des racines profondes et un fruit abondant pour la prochaine saison. Si nous n'avons pas cette diligence spirituelle que beaucoup négligent après la fête des tabernacles, donc les crises se multiplient quand la saison de la Pâque et de la première récolte arrive. Il y a des gens qui sont affaiblis spirituellement parce qu'ils n'ont pas planté cette semence dans leur cœur et dans leur âme, dans leur pensée, jour après jour, en se levant de bonne heure, en travaillant dans cette poussière qui est notre corps, et qui est aussi le temple de la présence des dieux. Mais c'est là où on doit planter la semence, comme la parabole du semeur nous enseigne. La semence est la parole des dieux. Et il faut qu'elle vienne dans une poussière qui est bonne, la bonne terre, et que nous ayons la diligence de travailler diligemment, jour après jour, diligemment, pour que l'Éternel nous donne cette croissance. Alors, je répète ici dans l'Épître aux Corinthiens, c'était très intéressant, il y a trois récoltes dans la Terre Sainte. Je sais que dans bien des pays qui sont dans les mêmes latitudes, il y a les récoltes. La première récolte, c'est les orges. Et nous allons voir, ça représente le Christ. La deuxième récolte qui vient exactement, qui mûrit, cette semaine, exactement après le premier fruit des orges, viennent le premier fruit du blé. Je vais vous montrer tout ça dans la Bible pour que nous ayons cette perspective agricole qui est en direct, un rapport direct avec notre travail et notre croissance spirituelle. C'est très utile d'avoir ce panorama physique et de savoir l'appliquer à notre situation spirituelle. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22, Dieu nous montre qu'il y a trois récoltes dans son plan de salut. Trois moments où Dieu va accorder la vie éternelle à ceux qui seront des vainqueurs. Nous allons voir de nouveau. Premier Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, nous lisons « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Il y a d'autres versions qui disent « chacun dans son ordre ». Il y a un ordre de récolte, et nous allons l'avoir ici, et donc pour vous montrer qu'il y a un parallèle entre ce qui est physique et entre ce qui est spirituel, et que l'Éternel veut que nous comprenions et que nous sachions l'appliquer à notre vie quotidienne, spirituelle. Il dit, chacun en son rang, donc chacun en son ordre. Trois récoltes. La première, Christ comme prémisse. Nous allons voir la première récolte, c'est celle qui s'est mûrie à l'époque de la Pâque des pains sans levain, c'est les orges, ça représente le Christ, le premier qui est sorti de la terre, le premier-né parmi les morts, le premier qui a ressuscité avec un corps spirituel, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair et qui est mort et qui est revenu à la vie par le pouvoir de son Père, le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Et il est sorti de la terre exactement, il a ressuscité quand le suprême sacrificateur coupait le premier épi des orges qui était mûri. Il lui a donné l'accomplissement exactement à la fin du sabbat hebdomadaire, pendant la semaine des pains sans levain. C'est là quand le Christ est sorti du tombeau, c'est quand le suprême sacrificateur, il coupait les premières épis qui avaient mûri des orges, exactement en son rang. Chacune représente une étape bien définie du plan de Dieu. Donc nous allons continuer ici pour voir ce panorama magnifique des récoltes dans la Terre Sainte. Je sais qu'en France aussi, je crois, c'est le même ordre. Donc, continuons. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Il dit pas quelle récolte, nous allons le démontrer dans un moment. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Qui sont ceux qui appartiennent à Christ? La deuxième récolte. Nous avons été engendrés par l'Esprit des dieux. Et la figure de cet engendrement, c'est la fête de la Pentecôte. Et vous connaissez bien le fait que nous, on est présentés devant la présence des dieux comme les premiers fruits du blé qui mûrit exactement cette semaine après les orges. Nous allons voir la preuve dans le chapitre. Reportez-vous, s'il vous plaît, il y en a qui connaissent bien ça. Mais comme je vous dis, c'est important de connaître le panorama agricole pour savoir comment l'appliquer à notre vie spirituelle. Au chapitre 34, verset 22 de l'Exode. Exode, chapitre 34, verset 22, nous allons voir quelle est la deuxième récolte. Exode, chapitre 34, verset 22, nous lisons « Tu célébreras la fête des semaines ». Souvenez-vous que le commandement, c'est de compter 7 semaines après les premiers fruits de la première récolte, qui est celle des orges. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment ou du blé. C'est les prémices, c'est-à-dire la deuxième récolte. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, c'était les fruits de l'été, qui sont mentionnés dans le livre du Deutéronome. Mais donc, nous, on est engendrés à la Pentecôte, mais ceux qui seront vainqueurs, ceux qui auront vaincu, c'est pourquoi on est présenté devant Dieu avec du levain, parce que quand on est engendré par Dieu, comme les prémices de la deuxième récolte, on a encore un corps physique. Vous savez que les apôtres et tous ceux qui étaient avec eux quand le jour de la Pentecôte est venu, ils étaient encore dans la chair. Et le sang, ils avaient une vie physique. Mais là, l'Éternel Dieu envoyait son esprit. Ils ont été engendrés. Et donc, notre tâche, c'est de vaincre cette loi qui est dans nos membres, qui est cette levure qui est représentée dans les deux pains qui sont présentés devant Dieu. Nous allons voir ça au Lévitique, chapitre 23. Vous voyez, ne perdez pas de vue, je suis en train de vous montrer l'ordre des récoltes, chacun en son temps. Chacun a son ordre, en son rang. Au chapitre 23, verset du Lévitique, chapitre 23, verset 15, nous allons voir cette deuxième récolte, comment on l'a décrit. Chapitre 23 du Lévitique, verset 15. Il dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté à d'autre. » Ça, c'est le Christ. C'est la gerbe des orges. C'est pendant la fête des pains sans levain. C'est le jour après le sabbat, d'après les instructions que vous lisez et au chapitre 23, verset 9. Allons là pour voir cette perspective des récoltes et pour comprendre que nous avons un travail spirituel à faire qui nous est enseigné en des termes physiques. Donc c'est important, c'est pourquoi l'Éternel nous montre, nous présente son plan dans des termes physiques, des termes de récolte. Au chapitre 23 du Lévitique, verset 9, il dit, lisons, et nous allons voir la première récolte. Verset 9 du Lévitique, chapitre 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson. » Oh, il ne dit pas quelle moisson. Nous allons voir, c'est les orges. « Et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Souvenez-vous que l'apôtre Paul dit « Chacun en son ordre, le Christ les prémices. » Alors, nous allons voir, étudiez-les dans vos Bibles, je vous montrerai que la première récolte à mûrir, ou la première qui sort de la terre après que la semence a germé, après qu'elle est morte, elle germe, elle grandit, elle produit fruit. Donc, le premier qui est sorti de la terre, c'est le Christ. Le premier qui est né de nouveau, le premier né parmi les morts. Et après, ça sera nous, à son retour, si nous sommes des vainqueurs. Donc nous allons voir, c'est extraordinaire de comprendre ça, et tout l'aspect agricole que Dieu nous montre ici. Donc, je répète, chapitre 23 du Lévitique, pour revenir dans la perspective de l'ordre que Dieu a établi. Chapitre 23 du Lévitique, quand vous serez entrés dans le pays, verset 9, que je vous donne, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Ça, c'est le premier en rang. Alors, quelle est cette gerbe? Ceux qui ont vécu à la campagne, on a des frères là, qui s'y connaissent bien, ils savent exactement. Ce sont les orges. Nous allons voir dans la Bible la preuve. Par exemple, reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Ruth. Au livre de Ruth, et nous allons voir l'ordre des récoltes. Je vous dis de nouveau, d'abord c'est les orges, nous allons le démontrer. Après c'est le blé ou le froment. Et puis la troisième récolte, c'est les raisins pour le vin, bien sûr. Puis les olives pour l'huile d'olive. Et puis le grenade, et puis le figue, et voilà, ce sont les principaux fruits de l'été, chacun en son ordre. Comme ça, nous comprenons le Christ le premier qui a été transformé d'être physique un être spirituel quand il est né de nouveau en sortant du tombeau à la fin du sabbat, au moment où le suprême sacrificateur coupait la première gerbe d'orge pour présenter devant Dieu le Christ le lendemain du sabbat. Quand Marie Madeleine est venue le toucher, il lui a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père. Donc, il est monté au Père au moment où le suprême sacrificateur, il présentait cette gerbe devant Dieu pour être accepté. Et l'Éternel a accepté, le Christ a triomphé. Il est mort, il a réussi. Son plan est en train de s'accomplir d'une façon triomphale. Chaque stage, chaque différent aspect du plan de Dieu est en train de s'accomplir. Maintenant, nous serons les suivants. Mais nous allons voir l'ordre des récoltes encore une fois. Il y a beaucoup d'informations, mais prenez bien note. Au chapitre 1 du livre de Ruth, et verset 22, chapitre 1 du livre de Ruth, verset 22, « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Et nous allons le voir encore plus clairement, et comme ça vous comprendrez, le Christ est représenté par les prémices des orges, nous sommes représentés par les prémices du froment ou du blé, et le reste de l'humanité est représenté par le fruit de l'été. Donc, nous avons un travail à faire, un travail agricole pour produire des fruits devant notre Dieu. Puis, allez, s'il vous plaît, vers le chapitre 3 du livre de Ruth, pour verset 18. La prochaine écriture. C'est au chapitre 2 de Ruth, verset 23. Nous allons voir ici l'ordre des récoltes. Chapitre 2, verset 23. Et elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, voilà l'ordre. Et nous allons voir maintenant, de façon absolument claire, pour clarifier la toute première récolte, reportez-vous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au premier livre de... Deuxième livre de Samuel, au chapitre, c'est vers la fin du livre, je vais vous dire tout de suite là, au chapitre 21, deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 9. Donc Ruth nous donne déjà une indication bien claire, et ici, ça devient absolument clair. Chapitre 21, deuxième livre de Samuel, chapitre 21 et verset 9. Il dit, « Et il les livra entre les mains des Gabaonites, et les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. » Attention maintenant à ce qui suit là. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Donc c'est absolument clair. C'est pourquoi le Christ est représenté par le premier fruit de la moisson des orges. Et nous, on est représenté par le premier fruit de la moisson du froment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ le prémisse après ceux qui appartiennent au Christ à son retour. Mais notre travail commence quand on est engendré, ce qui représente la Pentecôte, et il faut donc vaincre la levure qui est en nous. Il faut s'approcher de Dieu jour après jour pour être vainqueur, pour avoir ce pouvoir spirituel, pour vaincre, se vaincre soi-même, pour savoir se nier soi-même, pour ne pas se laisser vaincre par le monde, ni par la société. Donc, c'est une discipline qui doit être pratiquée jour après jour dans ce panorama agricole que l'Éternel nous donne. Ceux qui ont vécu à la campagne, ils savent très bien que le travail à la ferme est du travail dur. Il faut s'y mettre, autrement il n'y a pas de récolte. Il y a les mauvaises herbes qui s'emparent du champ. Donc, nous voyons donc là le panorama. Et puis, je vous répète encore pour vous clarifier que dans le livre de l'Exode, chapitre 34 et verset 22, Dieu nous dit que la deuxième récolte est celle du froment. Donc, nous avons déjà un point très clair. Et puis, nous allons voir le deuxième dans le livre de l'Exode. De nouveau, je vous l'ai déjà cité au chapitre 34. Il faut revenir pour que votre panorama soit clair. Et verset 22. Tu célébreras la fête des semaines. Donc, quand vous lisez le livre du Lévitique 23, après que les orges ont été présentées, la gerbe d'orge qui représente le Christ, chacun en son rang, ont été présentées devant Dieu, le jour après le sabbat, à la fin du sabbat, le Christ est sorti du tombeau, quand le suprême sacrificateur coupait la première gerbe. Le lendemain, le Christ a attendu jusqu'à ce que cette gerbe était préparée pour être présentée devant Dieu par le suprême sacrificateur, et le Christ lui a donné l'accomplissement, comme il a dit, « Je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. » Et toutes ces cérémonies ont été accomplies par le Christ. Et au moment où le suprême sacrificateur présentait cette gerbe devant Dieu, de tous les côtés, comme le Christ, le sacrifice du Christ, c'était pour tout le monde. Il est mort pour nous et pour tout le reste du monde. Nous avons été créés par lui, par son intermédiaire. Il est le seul qui peut nous donner le salut. Le Père nous le donne par son intermédiaire, mais c'est par lui que nous avons été faits. Donc, c'est merveilleux de voir comment nous, 7 semaines après, c'est le froment qui mûrit. Et nous allons voir, il y a pas mal d'applications là-dessus que nous essayerons d'expliquer aujourd'hui. Je répète, chapitre 34, verset 22 de l'Exode, Exode 34, 22, « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Ça, c'est le troisième en rang, c'est le reste de l'humanité. Donc, le Christ, les orges, nous, ne représentés par le froment, et le reste de l'humanité par les fruits de l'été. Et nous allons voir les fruits de l'été décrits, comme je vous l'avais annoncé il y a un moment, dans le livre du Deutéronome. Nous allons voir qu'il y a des fruits qui sont mentionnés là, et que ceux qui vivent à la campagne savent que le fruit des arbres fruitiers, bien sûr, ils mûrissent pendant l'été, ils sont récoltés avant l'automne. Lisons par exemple au chapitre 8 du Deutéronome, verset 7, l'Éternel nous montre là la variété de fruits qui poussent dans la Terre Sainte et qui ont tous un symbolisme spirituel. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de tout expliquer, mais au fur et à mesure que l'Éternel nous permettra, vous verrez qu'il y a des parallèles magnifiques, très utiles pour notre vie spirituelle. Au chapitre 8 et du Deutéronome, je vous prie de vous reporter au verset 7. Deutéronome, chapitre 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge. Ici, ils ne sont pas dans l'ordre que je vous ai déjà démontré. ça ne fait rien. L'important de savoir qu'il y a ces produits de la terre que Dieu mentionne continuellement et qui sont des symboles extraordinaires dans son plan de salut pour l'humanité. L'apôtre Paul nous l'a expliqué, chacun en son rang. Et d'autres versions, chacun aura la vie éternelle d'après les plans des dieux en son ordre. Les orges, le Christ, les froments, ceux qui appartiennent au Christ, puis il y a les vignes, c'est bien sûr les vendanges, on les fait pendant l'été, mois d'août. Des figuiers, elles mûrissent, les figuiers mûrissent en été, et les grenadiers, pays d'oliviers, donc il y a les fruits de l'été principaux et puis ceux que Dieu utilise comme des symboles de notre croissance spirituelle que nous devons présenter dans chaque fête. Il faut que personne vienne avec les mains vides. Il faut présenter un produit. Ce n'est pas seulement une somme d'argent qu'on doit présenter à Dieu. Cette somme d'argent doit être le reflet d'une croissance spirituelle qui a eu lieu en nous parce que nous avons utiliser notre temps à travailler cette terre qui est notre temple spirituel pour, comme je l'ai dit au début, pour labourer, pour avoir des sillons à notre être intérieur pour que la parole qui nous a été donnée puisse prendre des racines profondes et produire un fruit abondant pour l'éternel Dieu. Comme le Christ a dit dans le chapitre 15 des Jean, en ce que vous produisiez beaucoup de fruits, votre Père sera glorifié. Si à la croissance spirituelle, pas seulement une somme d'argent, Dieu exige qu'à chaque fête, nous nous présentions devant lui avec un produit d'une croissance spirituelle, d'une transformation intérieure, où nous nous ressemblons de plus en plus au Christ que nous allons épouser. Pour être un avec lui, il faut qu'il y ait une transformation, une croissance continuelle qui est représentée ici par notre travail dans la terre, dans notre travail agricole, chers sœurs et frères. Donc, je répète, quels sont les fruits principaux de cette terre et que Dieu utilise comme des symboles de la croissance de son peuple ? Et que personne ne peut se présenter devant lui avec les mains vides, parce qu'il nous donne tout ce qu'il faut. Il nous donne les semailles, il nous donne la semence, il nous donne la terre, il nous donne la pluie pour nous ramollir. Et puis nous allons voir dans un moment un pays de froment. Je répète chapitre 8, verset 8 du Deutéronome, pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Donc, vous avez les deux premières récoltes, les orges, les froments, le Christ et nous, à son retour. Après, c'est les fruits de l'été qui représentent les restes de l'humanité, la grande multitude qui sera la troisième à recevoir la vie éternelle. Le Christ, il a récupéré la gloire qu'il avait avec son Père avant la création, avant que le monde n'existe, avant la fondation du monde. Et puis, quand le Christ retournera, ceux qui auront vaincu la levure qui est en nous, cette loi que l'apôtre Paul mentionne dans le chapitre 7 des Romains, cette loi qui veut nous mener captives à la loi du péché, il faut se nier jour après jour, et que la semence et que la présence des dieux puisse prévaloir sur cette tendance au péché qui est en nous. C'est pourquoi les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse mentionnent les vainqueurs. Les vainqueurs. Pourquoi nous avons une lutte quotidienne, chers sœurs et frères. Nous allons voir, ça se ressemble beaucoup à la vie agricole que nous devons donc pratiquer et commencer juste après la fête des tabernacles, pour avoir un fruit de croissance pour présenter à Dieu dans la prochaine fête, quand la récolte des orges doit être présentée devant Dieu, que le Christ lui-même. Nous allons voir ça dans un moment. Donc, je répète, 8 du Deutéronome, chapitre 8, verset 8, pays des froments, d'orge, Ça, c'est les deux premières récoltes des vignes, les fruits de l'été. C'est la troisième récolte des figuiers, des fruits de l'été, et des grenadiers, fruits de l'été, et d'oliviers, fruits de l'été. Voilà ce que représente la troisième étape des saluts pour la grande multitude qui viendra après le petit groupe des prémices du petit troupeau qui va épouser le Christ. À son retour, si nous sommes des vainqueurs, si nous avons travaillé cette terre en plantant dans des sillons ouverts par la prière diligente, matin et soir, et même à midi, comme David et comme Daniel, pour que cette semence puisse croître et que le fruit soit abondant, chers sœurs et frères, et que nous ayons de la croissance spirituelle à présenter dans la présence des dieux quand nous allons à la Pâque et à la fête des pains sans levain. Donc, voilà, c'est une perspective agricole, chers sœurs et frères. Il y a tellement de choses que je veux vous montrer là dans les Écritures, qui c'est merveilleux de voir toute la sagesse que l'Éternel nous permet de découvrir quand nous étudions sa parole, quand nous prions « Ouvre mes yeux », comme disait David dans les psaumes 119, « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi ». Et voilà, donc notre tâche, c'est de travailler. Donc, qu'est-ce que nous devons donc faire juste après la fête des tabernacles quand l'Éternel envoie cette pluie de l'arrière-saison pour amollir la terre et pour que la semence qui a été plantée en nous pendant la fête des tabernacles puisse germer et produire un fruit encore plus abondant pour la fête de la Pâque et des pains sans levain. Il faut du travail, chers sœurs et frères. Il faut ouvrir des sillons. Lisons d'une façon poétique et très belle ce que Dieu fait après la fête des tabernacles, comment il envoie sa bénédiction sur la terre pour que nous puissions donc croître spirituellement. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 65 des psaumes. Chapitre 65, au verset 10, lisons. Le psaume 65, verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Si vous lisez d'autres versions, ils disent tu l'arroses. Tu arroses la terre. Mais nous continuons à lire. Je répète, c'est le chapitre 65 du livre des psaumes, à partir du verset 10. Nous voyons un panorama de ce que je suis en train de vous décrire. C'est merveilleux comment la Bible s'enrichit partout, la parole de Dieu. Chapitre 65, verset 10 des psaumes. Tu visites la terre, c'est nous, la poussière, chers sœurs et frères, et tu lui donnes l'abondance. Dieu veut que nous produisions beaucoup de fruits. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux des dieux et plein d'eau. Tu prépares le blé. Nous sommes le blé. Le Christ a dit, et d'ailleurs c'est l'apôtre Jean qui a dit que le Christ, il va ramasser son blé, mais la paille, il va la brûler. Par exemple, gardez cette écriture-là. Je vais vous lire là, vous voyez ça. C'est merveilleux la parole de Dieu, n'importe quel sujet qu'on prenne, il y a des dimensions dans toutes les directions qui s'enrichissent mutuellement et qui nous aident à avoir une meilleure compréhension du plan de Dieu. Au chapitre 3 du verset de Matthieu, chapitre 3, verset 10. De Matthieu. Ne perdez pas cette écriture parce qu'on va y revenir pour voir ce que Dieu fait pour nous après la fête des tabernacles. Il le faisait physiquement, il le fait spirituellement pour nous. Et il se sert de ce message qui nous inspire pour vous aider à ne pas être paresseux, chers sœurs et frères. Au chapitre 3 de Matthieu, verset 10, voici les paroles de l'apôtre de Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Comme je vous dis, nous devons présenter un fruit de croissance dans chaque fête. La fête des tabernacles, c'est surtout, on se concentre dans le fruit de l'été, comme les vignes. Et le Christ nous compare avec cette vigne et le Père, celui qui est le vigneron ou notre Père au chapitre 15 du livre des Jean. Vous voyez la comparaison. Et puis le figuier, il y a un figuier qui ne produit pas de fruits. Donc, à chaque saison, nous devons présenter un fruit de croissance spirituelle. Jamais être négligent. Notre travail spirituel continue après la fête. C'est là où je vais me concentrer et on ne fera encore plus d'explications là-dessus. Mais regardez, quand il y a un arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu. Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut. Je répète, il nous donne la terre, il nous donne la semence, il nous donne la pluie, il nous donne la croissance. Mais il faut que nous soyons aussi occupés à cette tâche qui nous correspond. Que maintenant, il s'agit, comme je vous dis, d'ouvrir des sillons dans la poussière de notre corps, de notre temple spirituel, pour que la semence des dieux puisse pénétrer profondément et qu'il y ait du fruit à présenter, un fruit de croissance, quand la fête de la Pâque et des pains sans levain viendra. Et nous allons voir, donc, je répète ici, pour de nouveau affermir dans vos esprits l'importance de ces trois étapes du plan des saluts, mais qui aussi représentent notre travail spirituel entre les fêtes pour pouvoir présenter non pas seulement une somme d'argent extérieure, mais qui est le reflet d'une véritable croissance, d'une transformation intérieure qui doit avoir lieu au-dedans de nous pour que le plan des dieux puisse s'accomplir. Au chapitre 3, verset 10 de Matthieu, vous voyez ce que le Jean-Baptiste dit, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et puis au verset 12, voilà ce qu'il dit. « Il a, en parlant du Christ, Jean-Baptiste, il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé. » Nous sommes le blé. Nous sommes la deuxième récolte. Le Christ, il veut du fruit réel, pas de la paille. Et voilà ce qu'il dit. Il amassera son blé. Il va nous ramasser à son retour. Et puis il dit, dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, c'est très sérieux. Dieu a beaucoup investi en nous et il exige des résultats. Et ces résultats exigent du travail de notre part, chers sœurs et frères. Donc, je reviens au chapitre 65, chapitre 65 de Psaume, au verset 10, « Tu visites la terre, et puis à la version Osterwaldi, tu l'arroses. » Et après, il dit, tu la combles de richesses. Chapitre 65 des Psaumes. Le ruisseau des dieux est plein d'eau. Tu prépares le blé. Donc, Dieu veut. Il nous prépare. Il nous donne tout ce qu'il faut. Il veut que, quand la prochaine fête viendra, nous ayons du fruit à présenter, des croissances spirituelles devant lui. Pas avec les mains vides. Une somme d'argent extérieure ne suffit pas. Il faut qu'elle soit le reflet d'une véritable transformation intérieure, d'un fruit de croissance en nous rassemblant de plus en plus à Jésus-Christ. Nous sommes destinés à être un avec lui. S'il n'y a pas une transformation en nous, on ne sera pas digne, on sera de la paille et on sera brûlé. Donc, c'est très sérieux. Le ruisseau des dieux est plein d'eau. Tu prépares le blé. Voilà. Il envoie cette pluie pour qu'il germe. quand tu la fertilises ainsi, avec l'eau, Dieu fertilise la terre, notre terre. Il est en train de le faire maintenant pour vous et pour moi avec ce serment. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Bon, il nous donne tout ce qu'il faut. Il travaille, il veut que nous travaillions. Tu la détrempes par des pluies. La pluie de l'arrière-saison, et puis la pluie, c'est comme je vous expliquais, de la mi-octobre jusqu'au mois de janvier, et après, avril, mai, c'est la dernière pluie qui fait mûrir les récoltes et qui aussi nourrit la terre pour que le fruit de l'été puisse être prêt pour la récolte vers la fin de l'année. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Voilà, c'est merveilleusement décrit ce que je suis en train de vous dire. Tu couronnes l'année de tes biens. Il s'attend à ce qu'il y ait un produit chez nous. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Dieu va transformer toute la terre. Nous, maintenant, il travaille avec nous. Et les collines sont saintes d'allégresse. Quand il y a du fruit, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Vous savez que le blé, il fait du bruit quand le vin souffle, quand les épis sont prêtes pour être récoltées. Alors, quelle est notre tâche? Je répète, nous avons un temple fait de la poussière de la terre, où demeure la présence de Dieu, un temple qui était sanctifié par le sang du Christ, pour que nous puissions avoir un rapport intime avec notre Dieu. Notre tâche donc, puisque aimer Dieu implique quatre dimensions dans notre temple que nous allons voir dans le livre de Marc, chapitre 12. Reportez-vous là, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, Évangile de Marc, chapitre 12. Il dit, chapitre 12, verset 28. Marc, chapitre 12, verset 28. Un des scribes, Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et nous allons voir que notre travail pour nous préparer pour la prochaine fête fait partie du premier commandement, fait partie de la loi des dieux, et que nous devons obéir. Quel est le premier commandement de tous les commandements ? Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, aimer c'est obéir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. » Quatre éléments. Comment pouvons-nous nous préparer pour la fête de la Pâque et avoir un fruit de croissance à présenter devant notre Dieu? Comme je vous l'ai dit au début, nous devons labourer, faire des sillons dans notre être intérieur, dans notre pensée, dans nos cœurs, dans nos âmes, de toutes nos forces, pour que cette semence produise des bonnes racines, qu'elle grandisse et qu'elle produise du fruit abondant pour la gloire de Dieu. Alors, si vous vous reportez au psaume 119, nous voyons donc comment David nous enseigne comment obéir ce commandement de mes dieux, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Voici au chapitre 119, nous allons voir quelques versets qui nous enseignent que nous devons nous lever de bonne heure. Le Christ, il se levait quand il faisait encore noir. Comme vous le lisez, j'ai vécu à la campagne, si on ne se lève pas tôt pour travailler, on n'aura pas le temps de faire tout le travail que le travail agricole demande. Si vous lisez le chapitre 1 de Marc, verset 16, disons, Marc, verset 16, je vous lis tout de suite, cher frère, je me rapporte ici à ma Bible, chapitre, verset 35, chapitre 1 de l'évangile de Marc, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, on sait aussi, je peux vous le montrer, vous pouvez le prouver vous-même, le Christ, il priait aussi à la fin du jour. Il montait souvent, il gravissait une montagne pour aller prier à son Père à la fin d'une journée, comme il l'a fait après qu'il a multiplié les pains et les poissons pour la multitude affamée. Il montait, il a gravi la montagne pour aller prier. Donc il gardait ce rythme pour pouvoir produire du fruit abondant. Donc je répète, Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà. Donc, il nous donne un exemple, le Christ. Si nous allons travailler cette terre, il faut commencer tôt le matin, chers soeurs et frères. Il faut être diligent. Par exemple, avant d'aller dans le psaume 119, vous m'excusez, chers soeurs et frères, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'espère que moi, je les répète pour ne pas vous confondre, pour que le panorama soit clair en vos esprits. Nous allons lire quelques exemples aussi de la vie agricole que Dieu nous donne et qui ont une application spirituelle formidable. Lisons le chapitre 12 des Proverbes. Nous avons déjà expliqué comment nous, on est la terre maintenant, qu'on doit labourer, et qui doit produire un fruit de croissance et d'une transformation intérieure, parce que nous, on se prépare pour être un avec le Christ. Il faut que nous soyons transformés de gloire en gloire par le travail quotidien que nous devons faire en commençant le soir, avant de nous coucher, et pas rester jusqu'à minuit en voyant de la télévision ou sur l'Internet des choses de ce monde, où les gens s'amusent avec de la sorcellerie, avec de la violence, avec de la pornographie. Ce sont les trois principaux éléments où les gens se distraient. Ils ont ce que Pascal a appelé le divertissement, continuellement aliéné par la distraction et par l'abondance du mal. Si nous ne luttons pas contre ça, nous avons la discipline de nous retirer assez tôt dans nos chambres pour avoir ce contact avant de coucher avec Dieu et de mettre de l'huile dans la lampe, la parole de Dieu pour qu'elle brûle toute la nuit. Pour s'il vient à minuit, nous puissions dire comme la femme du chapitre 31 des Proverbes, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Et puis, la femme amoureuse du Cantique des Cantiques, il dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Et puis, les 10 vierges, les 5 folles et les 5 prudentes, se sont toutes endormies. Mais il y en avait qui, malgré le fait qu'ils étaient endormis, leur lampe brûlait encore. Et c'est une belle écriture que je vous lis, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais je vous le lis, pour savoir que nous devons avoir la diligence de mettre cette parole de Dieu en notre esprit, en notre pensée avant de nous coucher le soir, pour qu'elle brûle la nuit, et pas que ce que le monde nous crache nous soit la dernière méditation de notre jour, et que le lendemain nous puissions nous lever et être encore dans la présence des dieux, élaborer cette terre. Dans les Cantiques des Cantiques, il y a cette belle écriture, au chapitre, comme je vous dis, je suis plein d'écritures aujourd'hui, patientez avec moi, et je ne vous parlerai pas pour quelque temps, et maintenant, c'est une époque où les gens, je répète, ont la tendance à négliger leur vie, leur travail spirituel. Au chapitre 5, verset 2 du Cantique des Cantiques, il y a cette belle écriture qui correspond pas seulement à la femme vertueuse du chapitre 31 des Proverbes, dont la lampe ne s'éteint pas la nuit. Vous le trouvez là, dans ce chapitre 31. Et vous, ici, au chapitre 5, verset 2, la même écriture que s'applique aux vierges prudentes qui gardaient de l'huile dans leur lampe. Parce que avant de se coucher, elles mettaient de l'huile. Mais si nous mettons ce que ce monde nous donne, nous allons nous éloigner des dieux. Et notre perspective va être pleine de brouillard. Je cherche ici le Cantique des Cantiques. C'est une écriture merveilleuse qui doit nous exhorter à commencer notre tâche spirituelle le soir, à l'heure du sacrifice du soir. Au chapitre 5, verset 2 du Cantique des Cantiques, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Et puis, je vous le lis puisque je suis là tout près, au chapitre 31 du livre des Proverbes, vous voyez cette expression 31-17, « Elle ceint des forces sereines. » Proverbe 31, verset 17. « Elle ceint des forces sereines. » Le Christ, il dit, « Gardez vos reins sains. » Gardez-vous en état d'alerte. Dans cette époque, on ne sait pas quand notre fin sera. Peut-être ce jour sera notre dernier jour. Ou bien le Christ, il s'approche, le retour s'approche. Et elle a fermé ses bras. Elle sent qu'elle gagne et qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Le roi David disait aussi dans le psaume 16, « Même la nuit, ma conscience m'instruit. » Donc, il nourrissait leur esprit avant de se coucher. Aaron, il devait mettre de l'huile dans les lampes le soir pour qu'elle brûle toute la nuit. Le message est clair. Ça prend du travail, chers sœurs et frères. Ça prend de la diligence, le travail spirituel que nous devons faire. Puis le matin, on se lève pour aller labourer la terre. Donc, voilà, chers sœurs et frères, c'est merveilleux. Dieu la mollit, Dieu la prépare, Dieu la détrempe. Et c'est à nous d'aller planter cette semence. Tout ce que nous devons faire, la planter. Donc, nous ouvrons des sillons par la prière. Voyons comment ça se passe dans le chapitre 119. Nous allons voir quelques aspects de ce suprême commandement, le tout premier. Chapitre 119 des Psaumes. Comment devons-nous donc nous lever, labourer la terre? Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Voilà le cœur, c'est la première chose que Dieu veut. Là où sont nos émotions, qui doivent être dirigées dans le chemin, les sillons de la loi de Dieu. Par exemple, au verset 7, nous devons nous lever de bonheur. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Pour que Dieu nous accepte, il faut que nos prières soient dans la droiture, dans l'obéissance de ses lois. Verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le travail du matin pour nous, le travail quotidien, des sillons dans le cœur. Si nous cherchons Dieu comme ça et nous méditons dans sa parole et nous la mettons, si nous nous préparons par la prière et nous ouvrons des sillons dans la pensée, dans le cœur et dans l'âme, Après, quand nous faisons notre étude biblique qui doit venir après, donc ça pénètre beaucoup plus profondément dans notre conscience. Et les racines vont plus profondes. Et on a un rapport plus profond avec Dieu, avec sa parole. Et on peut méditer toute la journée avec ce qu'on a lu le matin. Donc, je continue. 119, verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur. » Verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il est important d'apprendre les 10 commandements par cœur. La version complète par raccourci. Ils raccourcissent les 2 commandements les plus longs. C'est le 2e et le 4e. Ne pas adorer l'image et tout ce qu'il dit, et le 4e sur le sabbat. Il faut donc les apprendre par cœur. Ça nous aide à obéir quand ça fait partie de nous-mêmes. Et puis, on continue au verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Ça, c'est la pensée. Donne-moi la compréhension. Donc, il y a le cœur, il y a la pensée. C'est le premier commandement. Le psaume 119 nous explique comment garder le premier commandement. Aimer Dieu de toute sa pensée, de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Voyons par exemple au verset 20 pour l'âme. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. C'est ça, ouvrir des sillons dans l'âme, la préparer pour s'aimer la parole de Dieu avec une discipline quotidienne. Verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Doit avoir cette passion pour Dieu. Si nous ne l'avons pas maintenant, on va le forcer à nous mettre dans la grande détresse, où il faut se chauffer ou se refroidir. Après, il dit, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie, selon ta parole. » Et puis au verset 40 du psaume 119, « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. » Fais-moi vivre dans ta justice. Et puis on continue, par exemple, au verset 57. Ma part éternelle, je le dis, c'est de garder tes paroles. Donc on prépare le cœur. Je t'implore de tout mon cœur. Il y a une meilleure version. Une meilleure, vous pouvez la trouver dans d'autres. En anglais, par exemple, il dit, j'ai imploré ta présence de tout mon cœur. C'est-à-dire de se lever et de prier Dieu. Laisse-moi être en communication avec toi, d'avoir accès à ce troisième ciel où l'Éternel Père s'assoit avec son Fils et nous avons accès et avoir cette certitude qu'on est communiqué avec Dieu, que nous avons cette rapport intime avec notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'implore de tout mon cœur, peut mieux être dit, ta présence, j'implore de tout mon cœur. Vous pouvez le vérifier. Au verset 64, la terre éternelle est pleine de ta bonté. C'est nous la terre maintenant. Pleine de ta bonté, c'est le temple. Il dit, enseignez-moi tes statuts. Savoir avec la pensée. Enseignez-moi tes statuts. Au verset 65, tu fais bien à ton serviteur éternel selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Enseigne-moi. Il faut demander à Dieu, enseigne-moi à avoir un rapport intime avec toi, face à face, puisque je peux aller jusqu'au troisième ciel dans l'esprit. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Donne-moi la sagesse, savoir avoir la pensée. Donc nous voyons ici l'âme, nous voyons le cœur. Par exemple, verset 68, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi. » C'est-à-dire, prépare ce corps, cette intelligence, cette pensée, ce cœur, cette âme. De toutes mes forces, je te prie de me préparer pour recevoir la semence de ta parole, pour qu'il y ait un fruit réel. Dans la prochaine saison de récolte pour la Pâque. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça pendant l'hiver. Et quand la Pâque vient et que le diable attaque, ils sont affaiblis. Ils n'ont pas été diligents. Ils sont en proie facile aux tentations du diable et à l'influence des démons. Continuons encore quelques exemples. Je vous prie de continuer vous-même une étude de tous les psaumes 119. Vous voyez que là se trouvent ces quatre dimensions du premier commandement, du cœur, de la pensée, de l'âme, de la force. Par exemple, au verset 69, « Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. » Je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Donc je l'ai préparé d'abord par la prière. J'ai ouvert des sillons pour que ces ordonnances dans la parole de Dieu pénètrent profondément. Elles poussent des racines au-dedans de nous. Puis, on va lire encore quelques-unes au verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé de la poussière de la terre. Après, il dit « Donne-moi l'intelligence », c'est-à-dire que je puisse te servir avec ma pensée. « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Ouvre des sillons dans ma pensée pour que ta parole pénètre et pousse et produise des fruits. Verset 81. « Mon âme languit après ton salut. » Mon âme, quand elle est salue, c'est au son de la septième trompette. Si elle languit pour son salut, c'est qu'elle se prépare diligemment. Parce que quand on vit en la présence des dieux, même si on se voit comme on est, et on a une attitude d'humilité devant notre vrai Dieu, on a quand même la certitude qu'on va être avec lui au son de la septième trompette. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Voilà. Notre âme, c'est notre vie physique. Et nous espérons une vie spirituelle totale quand nous serons nés de nouveau. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Mais il a fallu la planter d'abord, pour qu'elle continue à vivre, à palpiter au-dedans de nous pendant la journée, chers frères. Je vous exhorte à continuer l'étude du psaume 119 pour qu'on comprenne comment on laboure cette terre au temps de la pluie, de l'arrière-saison qui va faire germer la semence de la parole qu'on a reçue pendant la fête. J'espère que le panorama est clair. Pour conclure, je vais vous donner quelques exhortations qui ont à voir avec cette vie agricole que nous devons accomplir de façon diligente. Dans le livre des Proverbes, je vous invite à voir quelques proverbes qui nous exhortent à ne pas être paresseux, mais à produire du fruit. Lisons par exemple chapitre 12 des Proverbes. Chapitre 12 et verset 11. Proverbe chapitre 12, verset 11. Celui qui cultive son champ. Voilà le sujet d'aujourd'hui. La première pluie de l'arrière-saison est là. C'est le temps que nous fassions notre part. Dieu nous envoie la pluie, il ramollit la terre, il nous ramollit avec ce message, par exemple. Et puis il dit, de nouveau, chapitre 12, verset 11 des Proverbes, voyez comment ça s'applique de façon merveilleuse, comment un seul sujet qu'on prend a des rapports partout dans la parole de Dieu. Chapitre 12, verset 11, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, il aura une récolte. Si nous labourons notre terre, et nous creusons des sillons au-dedans de nous pour que la semence de l'Éternel puisse pénétrer profondément, on va être rassasié au temps de la récolte parce qu'il y a une récolte abondante. Il y aura une transformation de notre être. Si nous sommes paresseux, nous n'aurons pas de croissance. On sera jeté au feu. si on ne fait pas ce que Dieu nous ordonne. C'est très sérieux. Le Christ a donné sa vie, le Père nous a donné son esprit, et il attend, il s'attend à qu'il y ait des résultats, à qu'il y ait des transformations, à qu'il y ait la croissance spirituelle. C'est lui qui cultive son champ. Voilà notre travail maintenant. Ouvrir des sillons dans ce champ, dans cette poussière, pour que la parole pénètre profondément. D'abord par la prière, nous ouvrons les sillons du cœur, de la pensée et de l'âme, de toutes nos forces, pour que la parole de Dieu pénètre et qu'elle produise du fruit pour la gloire de Dieu, pour l'accomplissement de son plan. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Il aura l'abondance. Il ne va pas se présenter avec les mains vides devant Dieu. Mais celui qui poursuit des choses vaines, trop de télévision, trop de distractions, trop de divertissement, on est aliéné par le monde. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'essence. Il viendra, et vous souvenez-vous de la parole de mine, il y a quelqu'un qui l'a gardé, qui n'a rien produit. La parabole des talents, il y a quelqu'un qui l'a caché, il n'a pas produit des fruits, et Dieu, il investit, mais il attend des résultats de notre part. Et voyons encore quelques proverbes pour que nous ayons une perspective claire, ce que Dieu espère de nous. Lisons par exemple le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 4. C'est partout dans les proverbes, il y a beaucoup de proverbes pour cette activité que nous devons accomplir. L'âme du paresseux, 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Si on reste au lit, si on se couche trop tard, si on ne se lève pas de bonne heure, si on ne se couche pas à l'heure appropriée pour être en bonne forme le matin, pour nous présenter devant Dieu et aller labourer la terre avec de la force, en chantant avec de la joie, chers sœurs et frères. Donc, chapitre 13, verset 4 de Proverbe, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça dépend de nous. On a un travail à faire et Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Nous voyons encore, voilà un autre proverbe, 14, 23, qui va nous aider à être diligents. 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Se lever de bonne heure, labourer notre terre, ouvrir des sillons, la prière, planter la semence, l'étude biblique, jour après jour, la parole de Dieu, c'est la semence. On prépare d'abord la terre, notre temple, par la prière, et puis on fait l'étude biblique, profondément, intimement, et puis on fait face à la journée. On a fait notre travail du jour. On se prépare pour le soir et le lendemain et continuer comme ça. Un travail continuel, quotidien, persévérant. Donc, je répète, 14, 23 des proverbes. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ça me rappelle Facebook. Il y a des gens qui perdent du temps là-dedans avec des vanités de paroles en l'air. Et puis, voyons quelques-uns encore pour que ça rentre profondément dans notre âme, dans notre cœur. Je ne les lis pas tous qui ont à voir avec la diligence, mais c'est rempli. Dieu a inspiré Salomon pour que nous ayons cet aspect. Par exemple, 18:9 de Proverbes. 18:9 de Proverbes, qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si nous on relâche notre vie spirituelle, souvenez-vous, il y avait un sacrifice du matin, une offrande du matin, une offrande du soir, et ce feu devait brûler continuellement. Et c'est Dieu qui l'avait allumé. Et si l'homme négligeait ça, une fois qu'il est éteint, personne ne peut le rallumer. Il n'y a que Dieu. peut-être ne les fera plus. Donc, ça nous exhorte partout la parole de Dieu à être diligent, à ne pas être paresseux, à nous laisser aliéner par ce monde. Puis continuons, il y a encore d'autres versets très importants. Voilà celui-là, chapitre 20, verset 4 des Proverbes. À cause du froid, parce que bien sûr, après la fête des tabernacles, il fait froid. L'été est fini, c'est le début de l'automne, et puis ça pénètre jusqu'au mois de janvier, comme c'est déjà l'hiver. Chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. On reste au lit, on ne se lève pas, on ne travaille pas, on n'ouvre pas des sillons, on ne plante pas la semence par l'étude biblique. Donc on néglige la prière, on néglige l'étude biblique, et puis vient la méditation. Et bien sûr, il faut le jeûne avec fréquence, il faut que je vous fasse un sermon là-dessus aussi, parce qu'il faut bien jeûner. Il y a des gens qui font un vœu pour l'année, ils disent, je vais jeûner 40 jours cette année. 40 jours, c'est-à-dire 40 jeûnes à partir de maintenant jusqu'à la prochaine fête. Pas de suite comme le Christ l'a fait, mais on peut le faire pour raffermir, pour approfondir notre rapport avec Dieu. Je répète, chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Ici, on peut dire, en espagnol, c'est intéressant. Orar, ça veut dire prier. Et arar, ça veut dire labourer. Ils sont presque identiques, les deux verbes. Arar, c'est labourer. Et prier, c'est orar. C'est intéressant. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Si on ne plante pas, si on ne sème pas, il n'y a pas de récolte. C'est une loi absolue. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça, chers frères. Il y a encore pas mal de choses à dire. Et l'une des choses les plus importantes que nous devons avoir pour la prochaine fête de la Pâque, si nous sommes diligents, nous allons nous rassembler de plus en plus au Christ. Et ce que la Pâque nous montre, c'est que le Christ était les orges, la toute première des récoltes à être prête pour être, n'est-ce pas, moissonnée. Et la fête des pains sans levain représente l'humilité. Si on veut cultiver notre terre en nous rapprochant du Christ, nous serons plus humbles pour la fête des tabernacles. Quand vous comparez les prix des orges avec les prix du blé, dans le livre de l'Apocalypse, les orges étaient la moins chère, le moins cher des grains étaient les orges. Le Christ se compare, il s'est humilié jusqu'à l'extrême par la mort qu'il a soufferte. Nous devons donc, en ayant ce rapport avec lui, en étant diligents, en travaillant sur cette terre que Dieu nous a confiée, notre propre temple, notre corps, fait de la poussière de la terre, mais où demeure la présence de Dieu, la parole de Dieu. Si nous sommes diligents, quand la fête de la Pâque va venir, nous allons être plus humbles. C'est l'un des fruits que nous devons présenter devant Dieu. Le Christ l'a dit, apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur. Que l'Éternel nous aide, chers sœurs et frères, nous reviendrons sur ces sujets parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'espère que vous avez compris le fond du message et que j'ai réussi à le faire avec clarté devant vos yeux. Que l'Éternel vous aide à avoir cette diligence, à labourer votre terre, à profiter de ce temps de semaille où Dieu amollit ou prépare notre terre pour qu'il y ait la croissance et la transformation spirituelle, et que quand la prochaine fête viendra, la fête de la Pâque, nous ayons du fruit des croissances, que c'est le Christ qui se manifeste en nous de plus en plus. C'est la véritable croissance. Et pour cela, il faut l'humilité qui sera représentée par les pains sans levain. Et nous pourrons nous présenter devant Dieu en nous disant, Père, j'ai travaillé, voici ce que j'ai produit par ta grâce, par ton aide. Donc, ce sera bientôt, chers sœurs et frères, que l'Éternel et que la paix de Dieu soient toujours avec vous. À bientôt.